Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Mes bien chers amis, mes bien chers frères, l'Esprit de Dieu a voulu que l'Église choisisse pour ce 15e dimanche après la Pentecôte ces beaux versets de l'Épître de saint Paul aux Galates et ce récit dans l'Évangile de la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Et la Providence a voulu que ce dimanche, 15e après la Pentecôte, se trouve justement au tout début de la reprise du séminaire, entre cette belle retraite que vous avez suivie, qui vous a été si bien prêchée et que vous avez si bien suivie, et la reprise des cours dès demain matin. Eh bien, ces deux textes, l'Épître et l'Évangile, sont pour nous l'objet de l'action de grâce et aussi sont l'expression d'un programme. D'abord, l'objet de l'action de grâce, parce qu'en quelque sorte, par votre présence ici, et hormis les nouveaux, les quelques 25 ou 27 nouveaux que nous attendons et qui seront là en octobre, hormis ces nouveaux, vous êtes tous ici. Et c'est comme une résurrection. La veuve de Naïm, c'était, peut-on dire, le séminaire des cônes pendant cet été. Voilà, elle est ressuscitée. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Le séminaire est ce lieu qui est votre ambiance naturelle, qui doit l'être, dans laquelle vous venez respirer le bon air de la sainteté, de la prière, de la science. Et nous, vos prêtres, nous, vos professeurs, nous sommes heureux de vous retrouver pour vous transmettre ce que Dieu nous donne à vous transmettre. Le goût de la sainteté, l'amour de la prière, l'amour de la science sacrée. Ce texte de l'Épître de saint Paul aux Galates est providentiel pour ce dimanche entre la retraite et la reprise des cours. Mes frères, dit saint Paul, mes frères, puisque nous vivons par l'Esprit, dans l'Esprit, marchons selon cet Esprit, l'Esprit de Dieu. L'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Faites le bien sans vous lasser, alors, au jour venu, au moment opportun, alors vous moissonnerez, alors vous récolterez, si vous ne vous êtes pas lassé. Quelle est cette moisson que vous devez récolter et d'abord semer en germe? Quelle est cette graine que vous devez semer? Cette graine que vous devez semer, c'est la sanctification, c'est la prière, c'est la science. Et pour la semer, il faut la posséder, donc il faut vous sanctifier, il faut prier, il faut apprendre. Alors vous sèmerez. Le jour où vous serez prêtre, vous sèmerez. Et déjà d'ailleurs, d'une façon discrète, cachée, mais réelle, si vous vous sanctifiez, si vous priez, si vous étudiez, vous semez et vous récoltez déjà des fruits de sainteté pour vous-même et pour les autres, dans l'Église, dans la communion des saints. Alors ne vous lassez pas de vous sanctifier, de prier, d'instruire, de vous instruire, veux-je dire. Ne vous lassez pas. Et c'est là le bien que vous devez chercher pour le transmettre un jour. Et voyez-vous, cela, ce triple bien-là, de la sanctification, de la prière et de l'étude, c'est un bien que vous devez acquérir nécessairement. C'est un devoir pour vous, chers séminaristes, de l'acquérir, un devoir. Le magistère pontifical est revenu souvent sur ce sujet de la sanctification des clercs, des séminaristes, des prêtres. Et saint Pie X, et Pie XII notamment, ont rappelé que le premier devoir du religieux et du prêtre, c'est de travailler à sa propre sanctification. Saint Pie X, dans sa belle encyclique Errant Animo,
dit qu'il exhorte le clergé à se sanctifier. Comment pourra-t-il être le sel de la terre s'il ne se sanctifie pas, s'il méprise sa propre sanctification? Comment pourra-t-il préserver le monde de la corruption si lui-même vit corrompu, ou si lui-même ne cherche pas à se guérir, à se laver par la grâce de Dieu de sa corruption? Et puis 12, dans son encyclique Mainti Nostrae, merveilleuse encyclique prononcée en 1950, disait que le religieux, que le clerc, que le séminariste, que le prêtre doit travailler inlassablement à sa propre sanctification. Chercher le bien inlassablement, nous disait saint Paul dans l'épître lu, chanté il y a quelques minutes. Nous devons chercher donc à nous sanctifier inlassablement. Nous devons être un soleil surnaturel, dit-il dans un discours au séminariste en 1939. Le soleil surnaturel qui enflamme les âmes de la charité et qui les éclaire par la lumière de la science. Eh bien, avant d'enflammer les âmes, avant d'éclairer les âmes, il faut être enflammé soi-même, éclairé soi-même. Enflammé de l'amour de Jésus-Christ, embrasé de l'amour de Jésus-Christ, nous dirions passionné de Jésus-Christ. Alors ce feu intérieur, ce feu dont brûlait Jésus-Christ, ce feu qu'il est venu donner à la terre, ce feu qu'il est venu pour que la terre soit embrasée par ce feu, alors ce feu, vous l'aurez par la grâce de Dieu. Et ce feu embrasera ceux que vous côtoierez, les brebis qu'un jour Dieu, dans sa bonté, vous donnera à nourrir, à conduire. Il faut aussi, pour éclairer les intelligences des fidèles et des hommes, être éclairé soi-même et par conséquent posséder la science. Vous êtes ici pour vous sanctifier, pour vous embraser l'amour de Jésus-Christ et pour acquérir la science. Voilà pourquoi vous êtes ici, pour mener une vie ascétique et mystique et étudiée. Brûler de la flamme de la charité, être rempli de la science, de la vérité, pour la transmettre aux autres. Et cela, voyez-vous, c'est très important, cette science à acquérir, faire l'effort tenace, humble, pour acquérir la science. On lit dans le prophète Osée, par exemple, au chapitre 4, n'est-ce pas, ceci qui est effroyable? Mon peuple s'est tu parce qu'il n'a pas eu la science. La louange de mon peuple s'est tu à mon égard parce qu'il n'a pas eu la science. Et juste après, il s'adresse au prêtre. Parce que tu as méprisé la science, parce que tu as repoussé la science, alors moi aussi je te repousserai afin que tu n'exerces plus mon sacerdoce. Voilà. Voilà. Tandis que le peuple attend de la bouche du prêtre, la science, parce que le prêtre est le gardien de la science, ce que Dieu dit en Malachie, voyez-vous. Alors, ayez ce grand désir de la sainteté et d'acquérir la science nécessaire, et de fournir l'effort nécessaire pour, avec la grâce de Dieu, acquérir la science absolument nécessaire. On ne sait jamais assez, on ne sait jamais assez bien ce que l'on sait. D'autant que la science que vous apprenez ici, la science sacrée, est ample, immense comme Dieu. On ne sait jamais assez bien ce que l'on sait. Cherchez donc cela inlassablement. Ayez le grand désir de la sanctification. On vous a dit dans la retraite, n'est-ce pas, il faut être des hommes de désir et des hommes patients. Il faut que votre désir soit réel, immense, et que votre âme soit patiente pour réaliser vos désirs. Le désir sans la patience, au fond, est une velléité. Le désir sans la patience se décourage, s'éteint, disparaît. La patience sans le désir, au fond, est une nonchalance, une paresse, une négligence. Il faut le désir et la patience. David, Daniel plutôt, Daniel. Le prophète Daniel a eu la prophétie de la naissance de Jésus-Christ, de la date de la naissance de Jésus-Christ, et ces fameuses 70 semaines d'années à partir de la reconstruction du temple par Néhémie. Eh bien l'ange, avant de lui annoncer cette magnifique prophétie, merveilleuse prophétie, lui dit, pourquoi il lui annonce au nom de Dieu ? Parce que tu es un homme de désir. Voilà. Parce que tu es un homme de désir. Alors soyez, chers amis, chers frères, des hommes de désir. Et soyez aussi patients. La sainteté est une longue patience. Sainte Thérèse d'Avila, cette grande sainte, l'a dit, l'a enseigné à ses filles. La sainteté est une longue patience. Vous connaissez cette poésie qu'elle a composée elle-même, qu'elle a écrite elle-même sur un signé et qu'elle gardait dans son bréviaire, qu'elle avait souvent par conséquent sous les yeux. Que rien ne t'effraie, que rien ne te trouble, tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient tout. Celui qui a Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit. Retenons, la patience obtient tout. Pourquoi faut-il que vous vous sanctifiez, que vous priez, que vous étudiez ? Pourquoi ? En raison de vous-même, bien sûr. Votre salut est suspendu à cela, bien sûr. Mais en raison aussi de votre ministère futur, chers séminaristes. En raison de cette hostie un jour que vous tiendrez dans les mains de ce Dieu un jour qui vous fera l'honneur d'être possédé entre vos doigts consacrés. Parce que vous aurez prononcé les paroles de la consécration, vous aurez transsubstantié le pain en corps de Jésus-Christ, le vin en sang de Jésus-Christ. Eh bien, raison de cette hostie sainte, vous devez vous sanctifier. C'est un devoir de vous sanctifier. Saint Charles Borromée dit, le Père pouvait-il nous mettre quelque chose de plus grand entre ses mains ? Et non pas. Il nous a mis son Fils, son égal, son coéternel. Alors comment pourrions-nous, par nos péchés, nos négligences, salir, entacher cette grâce extraordinaire du sacerdoce ? Par laquelle nous pouvons rendre présent Jésus-Christ sous la forme sacramentelle. En raison aussi du sacerdoce lui-même auquel vous aspirez, que vous visez. Le sacerdoce est une participation à la grâce d'union hypostatique qui unit la nature humaine et la nature divine dans l'unique personne du Verbe incarné. Eh bien, cette grâce d'union fait toute la sainteté de l'âme de Jésus-Christ. Elle est une union à Dieu, parfaite, sainte, la plus sainte qui soit, la plus parfaite qui soit. Elle aboutit à l'homme-Dieu. Et d'elle découle la grâce sanctifiante. Si Jésus-Christ, dans son âme, est plein de grâce et de vérité, plenum gratia et veritatis, c'est que la grâce sanctifiante découle de la grâce d'union hypostatique. Il est rempli de Dieu. Il est uni à Dieu dans son âme qu'on ne peut pas l'être plus. Forcément, cela dérive comme une fleur. Cela dérive en la grâce sanctifiante. Il est pleinement sanctifié, pleinement participant de la nature divine. Eh bien, le prêtre qui participe à l'union hypostatique, par conséquent, dont l'âme est sanctifiée d'une façon objective, essentielle, parce que, participant à l'union hypostatique, il est forcément saint, objectivement saint, essentiellement saint. Le prêtre doit alors coopérer, collaborer, correspondre par sa sainteté, disons, volontaire, par conséquent, par l'accroissement en son âme de la grâce sanctifiante. Le prêtre, en raison de son sacerdoce, doit désirer ardemment la sainteté. Ne pas se rendre indigne de la grâce sacerdoce. Et vous, chers confrères, chers séminaristes, ne vous rendez pas indigne de la grâce que vous recevrez un jour, si Dieu veut. Laissez croître en vous, par conséquent, la grâce sanctifiante. Enfin, le prêtre doit se sanctifier, doit étudier. Le séminariste doit se sanctifier, doit étudier en raison des fidèles que le prêtre a dans son troupeau ou que vous aurez, séminariste, dans votre troupeau un jour, si Dieu veut. Et là, Saint Charles Bolromé nous dit encore, n'est-ce pas, que Dieu met dans les mains du prêtre les âmes, ce qu'il a de plus cher. Il a préféré les âmes, je veux dire, dans son amour, à lui-même. Il s'est livré pour les âmes, pour une seule âme. Jésus-Christ aurait souffert la passion comme il l'a souffert pour une seule âme. Disons-nous, pour mon âme. Pour celle de nous tous, mais pour la mienne aussi. En raison de ces âmes qui ont coûté si cher à Jésus-Christ, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de l'or que Jésus-Christ a payé, c'est sa vie. C'est par sa vie qu'il a payé notre salut. Eh bien, c'est cela que Dieu met dans les mains du prêtre, ce qu'il a de plus cher après lui-même. C'est pour cela que le prêtre doit se sanctifier et que vous, séminaristes, vous devez vous sanctifier. Voyez-vous, le prêtre est un sauveur d'âme. Le prêtre est un premier de cordée. Un premier de cordée. Vous lirez, vous avez lu dans Don Chotard, n'est-ce pas, cette différence de degré entre le prêtre et son troupeau. Il faut se rappeler cela. L'histoire de l'Église, l'histoire des prêtres, l'histoire des fidèles, a permis d'établir comme une sorte de règle entre la sainteté ou l'état du prêtre et la sainteté et l'état de son troupeau. La règle est la suivante. À un prêtre saint correspond un peuple fervent et généreux. À un prêtre fervent correspond un peuple pieux. À un prêtre pieux correspond un peuple honnête. À un prêtre honnête correspond un peuple impie. Voilà. Et Saint Pédis, dans son encyclique Quirinte Animaux, dit que entre le prêtre et un homme quelconque, un honnête homme quelconque, il doit y avoir la même différence qu'entre le ciel et la terre. Voyez-vous-même, jugez-vous-même, agissez vous-même par la grâce de Dieu. Alors donc, demandez cette grâce par la Vierge Marie d'avoir ce désir brûlant de votre sanctification. Il ne faut pas séparer le salut éternel de la sanctification. Certains, par exemple, se contentent d'éviter le péché mortel, mais font peu cas du péché véniel. Eh bien, on dirait que c'est le plus sûr moyen de commettre le péché mortel que de ne mépriser que le péché mortel, et de ne pas considérer la gravité du péché véniel. Eh bien, si vous voulez vous sauver, il faut vous sanctifier. Voilà. Voilà. Le moyen du salut, c'est la sanctification quotidienne, de chaque instant. Demandez cette grâce, donc, ce grand désir, cette grande flamme du désir de la sanctification. Étudiez pour instruire. La devise du prêtre, on pourrait dire, est la suivante. Sanctifie-toi, sanctifie-toi, sanctifie. Instruis-toi. Instruis-toi. Instruis. Oublie-toi. Sacrifie-toi. Donne-toi. Donne. Prie. Voilà. Demandez à la Vierge Marie de réaliser cela en vous, par le séminaire d'abord, et puis ensuite, si la grâce, si Dieu veut, dans vos sacerdoces. Demandons cela à la Vierge Marie. Qui sait mieux qu'elle préparer le prêtre, former le prêtre? Notre-Dame, vous le savez, n'est pas prêtre, mais elle est plus que prêtre. Elle a formellement en elle ce qui forme le sacerdoce, l'Esprit du Christ s'offrant en victime, intercédant pour nous toujours auprès de son Père. Elle a tout ça en elle. Au pied de la croix, elle a offert son Fils. Eh bien, il est plus noble, plus grand de donner la vie au Verbe incarné que de le faire venir sous l'autel par la consécration. Il est plus grand, plus noble d'offrir Jésus-Christ au pied de la croix dans des souffrances indicibles, inexprimables, de la compassion, que de l'offrir en sacrifice sur l'autel. Notre-Dame n'est pas prêtre au sens strict du terme, elle est plus que prêtre. Elle sait ce que c'est que le prêtre. Notre-Dame répand sur les âmes toutes les grâces Quelle grâce? Les grâces de la passion? Par conséquent, les grâces de la messe, puisque la messe applique les fruits de la passion. Par conséquent, il y a entre eux Notre-Dame et la messe, entre elle et le prêtre, une relation indissoluble, une relation transcendantale, au sens le plus mystique, le plus profond du terme. Par conséquent, Notre-Dame, en quelque sorte, on peut dire, a besoin du prêtre. Le prêtre est forcément prêtre de Marie. Saint Jean fut donné à Marie pour être le prêtre de Marie. Saint Jean a donné à la Vierge Marie son sacerdoce, afin que par la messe que Saint Jean célébrait, les grâces découlent sur les âmes par la médiation universelle de Marie. Saint Jean célébrait la messe aux intentions de la Vierge Marie. Eh bien, séminaristes, chers séminaristes, ayez une grande dévotion envers la Vierge Marie. Vous n'aurez jamais assez de dévotion. Jamais de dévotion assez forte, assez théologique et assez tendre envers notre Mère du Ciel, la Mère de nos âmes. Jamais. Elle-même vous aidera à former en vous le prêtre que vous serez par la grâce de Dieu le jour de votre ordination. Elle vous aidera à faire croître en vous la grâce sanctifiante pour ne pas être indigne du sacrement de l'ordre. Et plus tard, à faire germer les fruits du sacrement de l'ordre. Demandons à la Vierge Marie donc de vous former, de nous former encore, à être de saints prêtres, des prêtres instruits, des prêtres généreux, des prêtres sacrifiés. Notre-Dame, donne-nous beaucoup de prêtres, pas seulement. Beaucoup de bons prêtres, pas seulement. Beaucoup de saints prêtres, pas seulement. Notre-Dame, donne-nous beaucoup de prêtres qui soient des saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mon Seigneur, chers amis, bien chers frères, nous voici réunis ce soir autour de l'autel, comme le furent les apôtres en ce jeudi saint sacré que nous commémorons aujourd'hui. Ce n'est pas sans une grande émotion que nous nous retrouvons ici, en cette fin d'après-midi. Ce n'est pas trop dire, en effet, que de dire que c'est avec un grand serrement de cœur que nous abordons ces cérémonies. Nous fêtons, en effet, un grand anniversaire, anniversaire d'un des deux plus grands jours du monde. Anniversaire du premier jeudi saint du monde et demain l'anniversaire du vrai, du premier vendredi saint du monde. Anniversaire émouvant parce que les événements qui sont passés ce soir-là ont fixé notre destinée, notre vie éternelle, dépendait de ces événements comme de ceux qui se passeront, qui se sont passés au cours du Vendredi Saint. Il me semble que pour exciter notre reconnaissance envers le bon Dieu, notre amour envers notre Seigneur, il est bon de rappeler les grands événements que nous célébrons ce soir, presque sans commentaire. Le récit suffit à lui-même. Au cours du repas, le Seigneur, le Maître, se ceint d'un linge comme un serviteur. Il remplit un bassin d'eau comme un maître d'œuvre. Et il passe devant chaque apôtre, il leur lave les pieds, il leur baise les pieds comme un esclave. Cela déjà est merveilleux. Et ce qui est plus merveilleux encore, c'est qu'il passe devant Judas, il lave les pieds de Judas, il baise les pieds de Judas, il lave les pieds du traître. Pourquoi? Jésus-Christ nous apprend là à être humbles. Il est venu pour servir. Nous sommes aussi là pour servir, nous, prêtres.
vous, séminaristes, non pas pour être servi. Il nous apprend à être humble. Il nous apprend à être bon. Les apôtres sont confondus, les apôtres sont interdits. Et voilà que vient un second événement. Jésus-Christ leur annonce la trahison de Judas. Alors, ils sont ahuris, ils sont déconcertés, ils sont anéantis. C'est une véritable commotion. Mais ils vont assister à un événement plus grand encore, plus mystérieux encore, parce que en tout divin, ils vont assister à la célébration de la première messe du monde, à la première consécration du pain et du vin du monde, à la première transsubstantiation du pain et du vin qui fut réalisée dans l'histoire du monde. Le Seigneur prend du pain, il le bénit, il le consacre. Il prend la dernière coupe, il bénit le vin, il le consacre. Désormais, c'est son corps qu'il tient dans ses mains, c'est son sang qui est dans cette coupe. Le Seigneur a tenu dans ses mains son propre corps. Le corps physique, réel, physique de Jésus, a tenu. Le corps réel, sacramentel de Jésus. Parce que dans ses mains, il tient les espèces eucharistiques, les accidents du pain. Il faut croire aussi que le Christ s'est communié lui-même. Certes, la communion n'a pas apporté chez lui un accroissement de grâce, il était plein de grâce et de vérité. Cependant, elle a apporté une consolation spirituelle. Cela, c'était possible. Lui qui s'est réjoui de ce que Jésus-Christ est révélé, de ce que Dieu est révélé, des mystères aux simples. Et les apôtres assistent à la messe et ils sont ordonnés prêtres. Voilà encore un événement extraordinaire que nous célébrons ce soir. Nous célébrons les premières ordinations sacerdotales du monde selon l'ordre de Melchisédek. Ils reçoivent le pouvoir sublime. Il n'y a pas sur la terre de pouvoir plus grand que celui-là, le pouvoir sublime de consacrer le pain et le vin, de célébrer la messe, d'offrir le sacrifice eucharistique. Les voilà forts de la communion. Les voilà prêtres. Les voilà investis du Saint-Esprit au don septiforme. Et voilà aussi que Judas s'en va. On peut croire que Judas fut ordonné prêtre, que Judas a communié. Voici qu'il s'en va. Alors, le cœur du Sauveur, le sacré cœur, est comme libéré d'un poids. Et il s'adresse à ses apôtres en ce discours merveilleux qu'on appelle le discours après la scène. Il leur parle de l'union avec lui, avec son Père, avec le Saint-Esprit, dans la prière, dans l'amour. Il les encourage pour les épreuves à venir, pour les persécutions à venir. Et puis il termine par ces paroles qui sont sans doute les plus belles de la Sainte Écriture, la prière sacerdotale. Après, c'est le départ courageux pour le jardin de Gethsémani. Après, c'est l'agonie où le sang de Jésus, où le précieux sang de Jésus coule déjà à cause de nous, pour nous. Après, c'est l'arrestation, comme un voleur, comme un brigand. Le traître vient baiser Jésus, avec le signe de l'amitié, il livre son maître. Après, ce sont les tribunaux iniques de la nuit. Après, c'est la rude montée, la montée exténuante du calvaire. Après, c'est la mort, c'est la victoire, c'est le triomphe. Le calvaire est un sommet triomphal où Jésus a vaincu le péché, vaincu le démon, vaincu la mort. Après, c'est la Pâque, le dimanche de Pâques. Nous pouvons nous demander quelles sont, en ces heures sacrées, en ces heures saintes, quels sont les sentiments qui habitent l'âme de Jésus, la sainte âme du Sauveur. Quels sont les principaux sentiments qui inondent la sainte âme du Sauveur? Sans hésiter, il faut les ramener à deux. À deux. La joie et la tristesse. Deux sentiments qui apparemment semblent opposés et qui cependant cohabitent dans l'âme du Christ. La joie et la tristesse. La joie, parce qu'il l'a dit à ses apôtres. Après l'allégorie de la vigne, dans ce discours après la scène, il leur dit qu'il leur a dit ces choses, afin que sa joie soit en eux et que leur joie soit parfaite. Par conséquent, Jésus est plein de joie. Plein de joie, plein aussi de tristesse, et il leur confesse avec simplicité, avec humilité, en entrant dans le jardin de Gethsémani, il leur dit, à Pierre, à Jacques, à Jean, il leur dit, « Mon âme est triste, tristis est anima mea usque ad mortem. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Il est envahi d'une angoisse effroyable, d'une tristesse mortelle. » Apparemment, la joie et la tristesse sont contradictoires, sont opposées. Comment se fait-il qu'elles habitent vraiment l'âme sainte de Jésus-Christ? Elles habitent vraiment l'âme de Jésus-Christ parce qu'elles ont l'une et l'autre pour raison la passion. La passion, en effet. La passion remplit l'âme de Jésus-Christ de joie parce que par elle, il va rendre à Dieu la gloire qui lui est due. Il va réparer la justice et parce que par elle, il va réaliser la rédemption des âmes. Mais aussi, sa passion l'attriste parce qu'il sait, que beaucoup ne profiteront pas de son agonie, de sa passion, de son sang, de sa mort. Voilà pourquoi il est accablé d'une tristesse mortelle. Mais aussi, parce que Jésus-Christ est plein de grâce et de vérité, plein de grâce, plein de charité, la cause de sa joie, la cause de sa tristesse, c'est la charité dont son âme est pleine. Charité pour Dieu, charité pour les âmes, et aussi parce que Jésus-Christ n'a jamais quitté la vision béatifique, et celle-ci réjouit bien sûr son âme. Il me semble alors que ce soir il convient de s'arrêter sur l'amour de Jésus pour nous, dont sa joie et sa tristesse découle. L'amour pour nous. Il a dit à ses apôtres, ou Saint Jean plutôt le dit, avant la messe. Jésus-Christ qui avait aimé les siens, qui étaient dans le monde, les aima in finem. In finem, dilexit eos, nous dit Saint Jean. Que signifie in finem? Comment traduire parfaitement in finem? In finem signifie la continuité, la persévérance de son amour, mais aussi l'amplitude, l'ampleur infinie de son amour. Jésus-Christ a aimé les siens jusqu'à la fin, jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême, jusqu'au comble de l'amour. Il ne pouvait pas les aimer plus, puisqu'il était Dieu. Il ne pouvait pas leur montrer plus qu'il les aimait, plus que ce qu'il a fait, plus que les manifestations de son amour qu'il leur a donné. Il les a aimés jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Jusqu'à la fin donc, il les a aimés depuis le début. Depuis le début, Jésus-Christ a aimé ses apôtres et puis ceux qui croiront en leurs paroles. Il est venu, il s'est incarné, Il a vécu parmi nous, il a souffert, il est mort, par amour pour son Père, par amour pour les âmes. Tout dans la vie de Jésus est amour, n'est qu'amour. Il les a aimés jusqu'à la fin, jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Et cela, c'est sa passion. Sa passion nous montre combien Jésus-Christ nous a aimés. Elle passe par l'agonie terrible de Gethsémani. Elle passe par les fouets qui s'écrasent, qui déchirent, qui s'écrasent sur le corps si délicat de Jésus, qui déchire le corps sacré de Jésus. Elle passe par les insultes. Elle passe par la rude montée du chemin de la croix. Sa passion aboutit au calvaire, à la mort, à la vie, à la victoire. Il les a aimés jusqu'à l'extrême. L'extrême, c'est la Sainte Eucharistie. Jésus-Christ ne pouvait pas nous laisser un moyen plus beau, plus grand, plus émouvant. Un signe, je veux dire, plus beau, plus grand, plus émouvant de son amour pour nous que la Sainte Eucharistie. L'amour de soi se répand. L'amour se défend contre l'absence. L'amour est une force unitive. Eh bien, par la Sainte Eucharistie, Jésus-Christ va réaliser tout cela. L'amour se répand. Quand on aime, on donne, plus encore, on donne de soi, on se donne. Plus on est bon, plus on se donne. La perfection du don de l'amour est à la mesure de la bonté de celui qui aime. Plus il est bon, plus il donne intimement ce qu'il donne, ce qu'il donne de lui. Jésus-Christ est Dieu, parfait, il se donne tout entier dans la Sainte Eucharistie. La Sainte Eucharistie, c'est le don total de Dieu qui nous aime. Il est vraiment, réellement, substantiellement présent dans son corps, son sang, son âme et sa divinité dans la Sainte Eucharistie. Il s'est donné tout entier. Quand on s'est donné, que s'est-on réservé ? Jésus-Christ s'est donné tout entier, il ne s'est rien réservé. Il s'est donné au calvaire, et la messe reproduit le sacrifice du calvaire. Voilà encore pourquoi Jésus-Christ est tout amour. La Sainte Eucharistie est instituée pour renouveler le sacrifice de la croix. La messe, c'est l'acte de charité parfait, l'acte de charité par excellence. L'Eucharistie est là, Jésus-Christ est là qui s'offre par amour en sacrifice. Saint Bonaventure nous dit que l'Eucharistie est le mémorial et l'abrégé de tous les mystères de la vie de Jésus-Christ, et c'est vrai. L'Eucharistie nous rappelle son incarnation. Elle est comme la continuation de son incarnation. L'Eucharistie nous rappelle sa naissance à Bethléem, la maison du pain, parce qu'elle est aussi pour notre nourriture. L'Eucharistie nous rappelle sa mort, parce que Jésus-Christ s'offre en sacrifice à la messe. Elle nous rappelle aussi sa résurrection, parce qu'il est glorieux dans l'Eucharistie, et l'Eucharistie est le gage de notre propre résurrection. Jésus-Christ, par conséquent, par amour, se livre tout entier à nous. Mais aussi, il se protège contre l'oubli. Il est monté au ciel, nous aurions pu oublier tout ce qu'il a fait pour nous. Alors, il prend un moyen inimaginable aux hommes. Il reste présent au milieu de nous par la Sainte Eucharistie. Ainsi, ceux qui furent désolés de son départ ont été consolés par sa présence. Ainsi, l'âme qui croit adore l'hostie, perçoit la présence réelle de son Dieu. Il est l'Emmanuel, il est proche d'elle, il n'est pas absent. Ainsi Jésus-Christ a protégé l'oubli de son amour en restant présent parmi nous. Parce que si tous n'oublient pas l'être aimé absent, beaucoup l'oublient, presque tous l'oublient. Et même avec l'Eucharistie, beaucoup oublient l'amour de Jésus. Enfin, l'amour est une force unitive. L'amour désire l'union. Une union réelle par la proximité de ceux qui aiment, de ceux qui s'aiment, ou bien si ceux qui s'aiment sont loin l'un de l'autre, une union affective, on pense à l'être aimé, on se complaît à la pensée de l'être aimé. Loin de nous, c'est l'union affective. L'amour fait que celui qui est aimé est dans celui qui aime. Et il fait que celui qui aime est dans celui qui est aimé. Celui qui aime est dans celui qui aime, parce que celui qui aime pense à celui qu'il aime. Il est présent dans son souvenir, dans son cœur, il se complaît à la pensée de celui qu'il aime. Celui qui aime est dans celui qui est aimé, parce qu'il épouse les désirs de l'autre, il est comme l'autre, comme en l'autre. Ce qui fait la joie de l'autre, c'est sa joie à lui. Ce qui fait le bonheur de l'autre, c'est son bonheur à lui. Eh bien, par l'Eucharistie, Jésus-Christ réalise ce désir de l'union, désir profond de l'amour. Une union réelle par la communion sacramentelle. On reçoit dans son corps le corps de Jésus. Certes, il n'y a pas une union physique directe entre son corps et le nôtre. Il y a entre le sien et le nôtre les espèces eucharistiques, mais il est en nous tant que les espèces ne sont pas détruites. Mais surtout, le Verbe de Dieu s'unit à notre âme, il s'unit avec le Père, avec le Saint-Esprit en notre âme. Elle est le temple, plus beau encore qu'avant, le temple de la Sainte Trinité. Celui qui aime est aussi dans celui qu'il aime. Parce que l'Eucharistie nous transforme en Jésus-Christ. Elle transforme l'âme en elle. Elle divinise l'âme, elle sanctifie l'âme. Et voilà que nous devenons un peu plus chaque fois, à chaque communion fervente, un peu plus Jésus-Christ. Nous sommes transformés en lui. Nous sommes en lui. Nos désirs deviennent de plus en plus conformes à ses désirs. Sa volonté devient de plus en plus notre volonté, sa joie, notre bonheur. L'Eucharistie est donc vraiment le sacrement de l'amour, comme les pères, comme la tradition le disent. On comprend alors pourquoi il est impossible de s'approcher de l'Eucharistie si notre âme n'est pas disposée à communier, si notre âme a perdu la grâce sanctifiante, c'est que saint Paul nous rappelle dans l'épître d'aujourd'hui. L'Eucharistie unit à Dieu, mais alors aussi elle soude l'union dans le corps mystique, par conséquent elle unit les fidèles entre eux. Ceux qui communient dignement au corps de Jésus-Christ sont unis plus fortement entre eux. Voilà pourquoi aussi l'Eucharistie appelle la charité fraternelle, voilà pourquoi aussi on ne peut pas aller communier si on n'aime pas son frère. Et Jésus-Christ le disait, celui qui va à l'autel présenter son offrande, s'il se rappelle que son frère a quelque chose contre lui, qu'il laisse là son offrande et qu'il aille d'abord se réconcilier avec son frère, après quoi il pourra retourner à l'autel. L'Eucharistie, par conséquent, est vraiment le sacrement de l'amour. Jésus-Christ nous a aimés jusqu'à l'extrême. Aimons-le en retour. Il nous a aimés le premier. Aimons-le en retour jusqu'à l'extrême, autant qu'il est possible par la grâce de Dieu. Jésus-Christ nous a aimés jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, aimons-le jusqu'à la mort, afin de l'aimer au-delà de la mort. Si nous aimons Dieu, nous aurons une béatitude éternelle. Si nous mourons sans aimer Dieu, nous connaîtrons une éternité malheureuse. Si nous avons des défauts dans notre charité envers Dieu, envers l'Eucharistie, envers nous-mêmes, envers notre prochain, nous connaîtrons alors, à la mesure de ces défauts, un purgatoire, plus ou moins rude, plus ou moins long. Si nous aimons vraiment le bon Dieu, vraiment l'Eucharistie, vraiment nous-mêmes, vraiment notre prochain, alors nous connaîtrons une gloire à la mesure de notre charité. Et croyons bien, mes chers amis, croyons bien que le purgatoire n'est pas une nécessité, il faut chercher à l'éviter. La voie normale de la vie chrétienne, c'est d'aller d'ici au ciel, sans le purgatoire. Et si la voie normale se réalise dans les saints, alors, par la grâce de Dieu, visons la sainteté. Pour finir, tournons-nous vers Notre-Dame de compassion, Notre-Dame, la mère du bel amour, Notre-Dame du Saint-Sacrement. Par elle, dans la foi, entrons déjà dans la joie de Jésus par la croix, afin, auprès d'elle, de connaître dans la vision la joie parfaite promise par Jésus. Entrons déjà dans la joie de Jésus par la croix, afin, auprès d'elle, de connaître dans la vision la joie parfaite promise par Jésus, la joie sans la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Maintenant, vous êtes triste, mais vous me reverrez, et votre cœur se réjouira, et votre joie, nulle ne vous la ravira. Voilà ce que nous avons entendu dans le chant de l'Évangile. C'est ce que rapporte saint Jean des paroles du Sauveur en son chapitre 16 de son Évangile. Ces paroles font partie du beau discours, dit le discours après la scène. Un chapitre avant, chapitre 15e, Jésus-Christ disait à ses apôtres, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et demeure en son amour. » Et le Sauveur ajoute, « Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Alors, si vous le voulez bien, pendant quelques instants, réfléchissons sur ce qu'est la joie, la vraie joie et plus précisément la joie spirituelle. Nous définirons la joie, ce qu'elle est. Nous dirons quels sont ses effets et nous dirons comment vivre la joie, comment faire croître en nous la joie. Qu'est-ce que la joie? En un sens général, la joie, c'est ce sentiment de paix et de contentement profond que l'on a à la possession d'un bien. On possède un bien désiré, on est dans la joie de la possession tranquille de ce bien. Et lorsque ce bien est Dieu, alors nous avons la joie spirituelle. La joie spirituelle, c'est ce sentiment de paix et de contentement intime que connaît l'âme qui se sait unie à Dieu par conséquent, qui se sait dans la possession de Dieu. La joie est un effet de la charité, un effet de la grâce sanctifiante. Jésus-Christ le dit aux apôtres. Si vous gardez mes commandements, vous resterez unis à moi dans mon amour et votre joie sera parfaite. La joie est un effet de la charité. Pourquoi ? Parce que la charité, c'est l'amour envers Dieu, l'amour envers soi, envers les autres, mais en fonction de l'amour de Dieu, c'est l'amour surnaturel. L'amour dans l'état de grâce, on est en état de grâce avec Dieu, Dieu nous aime et nous pouvons, par cette grâce qui nous fait participer à sa vie intime, l'aimer d'une façon surnaturelle. Par conséquent, la joie est un effet de la charité. La joie est un des fruits du Saint-Esprit, nous dit saint Paul. Les fruits du Saint-Esprit, dit saint Paul dans l'Épître aux Galates, sont charité, joie, paix, justement. Dans l'Épître aux Romains, il disait que le royaume de Dieu n'est pas dans le boire ni dans le manger, mais dans la paix et la joie. Si on a la grâce, Dieu habite en nous, Dieu fait son royaume en nous, par conséquent, nous avons la paix d'être unis à Dieu, d'être le temple de Dieu. Voilà la vraie joie spirituelle, la joie de l'union à Dieu. Eh bien, quels sont les effets de cette vraie joie? D'abord négatif, ensuite positif. Les effets négatifs sont de chasser la tristesse. La joie chasse la tristesse. La tristesse, selon le monde, comme l'appelle saint Paul, cette tristesse qui est mortelle, cette tristesse qui, selon le monde, en a tué beaucoup, qui produit la mort, car il y a une bonne tristesse. La tristesse en face du péché, en face de son péché et du péché des autres. Une tristesse qui pourrait être surnaturelle, s'accompagne de regrets, de contrition, de satisfaction. Et alors, on retrouve la joie. Par conséquent, la joie spirituelle s'oppose à la tristesse du monde, à la tristesse de ceux qui n'ont pas un bien qu'ils convoitent, un bien mauvais qu'ils convoitent. Alors la joie, par conséquent, par rapport à Dieu, nous permet de recevoir ses dons. Parce que la tristesse qui ressemble, qui est liée au manque de confiance en Dieu, nous empêche de prier, nous bloque dans notre relation filiale avec Dieu. La joie empêche cette tristesse qui nous empêche d'être unis à Dieu et de prier et d'avoir confiance. La joie enlève la tristesse qui est un obstacle dans la vie commune et dans l'apostolat. La tristesse de quelqu'un, la morosité de quelqu'un se répand, fait tache d'huile. La tristesse de quelqu'un le limite dans son apostolat. Et enfin, la tristesse a un effet sur celui qui est triste lui-même, c'est qu'elle lui enlève toute énergie spirituelle, elle le décourage. Eh bien, la joie chasse la tristesse, par conséquent la joie rend courage. Et Saint Thérèse d'Avila craignait beaucoup lorsque ses sœurs perdaient la joie du cœur. Et nous connaissons tous cette parole de saint François de Sales qui dit qu'un triste saint est un saint triste. Un triste n'est pas saint du tout. Voilà donc les effets négatifs, peut-on dire, de la joie. La joie chasse la tristesse. Mais surtout, la joie a des effets positifs, et par rapport à Dieu, et par rapport aux autres, et par rapport à nous-mêmes. Et elle augmente les mérites. Car, nous dit saint Paul dans la seconde épître aux Corinthiens, Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Dieu aime ceux qui se donnent avec joie. Dieu aime ceux qui ne regrettent pas ce qu'ils donnent. Dieu aime ceux qui ne regrettent pas de s'être donné. La joie dans le don, la joie dans le sacrifice rend plus facile le don, le sacrifice, plus méritoire le don, le sacrifice. Dieu aime ce qui donne, ce qui se donne avec joie. La joie, nous l'avons dit, c'est un sentiment de paix, de tranquillité par conséquent. Eh bien, la joie fait que l'on a une humeur assez égale, et cela, c'est agréable aux autres. La joie fait qu'on est heureux intimement, donc on est affable en face des autres. Et ainsi, la compagnie des gens joyeux est agréable, et ainsi, l'apostolat des gens joyeux est fructueux. La joie est un facteur d'apostolat. Et enfin, quant à soi, la joie permet de supporter les épreuves de la vie avec profit, bénéfice, tranquillité d'âme. Elle permet de garder la stabilité de l'âme dans les épreuves. Elle facilite la vie spirituelle, les efforts, les sacrifices. Eh bien, comment avoir cette joie spirituelle? Par la grâce, nous l'avons dit, donc en gardant la grâce, évidemment, mais en pas porter sa coopération à cela, afin que la joie grandisse en nous, et nous donnerions trois moyens de vivre dans la joie. D'abord, la mortification et la pénitence. Ensuite, l'esprit de foi. Enfin, l'accomplissement de son devoir. Nous avons eu le dimanche de l'étaré, quatrième dimanche de carême, le dimanche de Gaudete, troisième dimanche de l'Avent. Et voilà que Jésus-Christ nous parle de la joie en ce soir du Jeudi Saint. Il est à quelques minutes de son effroyable agonie, à quelques heures de la montée du calvaire et de sa mort. Il parle de la joie en ce moment tragique à certains points de vue. L'Église nous fait chanter l'étare et Gaudete en des dimanches de carême ou d'avant qui sont des dimanches de pénitence. Par conséquent, elle nous enseigne par là qu'il n'y a pas de joie possible sans la mortification. La mortification d'abord, qui nous fait éviter les mauvais plaisirs, source de joie trompeuse, source de déception, source de tristesse, qui nous fait éviter le péché. La mortification qui nous fait aussi, par une vie austère, supporter tranquillement les intempéries, les incommodités, les humiliations, les épreuves de la vie, emporte ça avec facilité, avec joie. La mortification aussi qui nous fait nous détacher des biens de ce monde, en user comme il faut, en user pour notre âme, en user pour notre joie, s'en détacher, s'en dégager, s'en priver pour notre joie. Et enfin, l'esprit de pénitence, ce qu'on appelle l'esprit de componction, le sentiment de sa misère, de son humilité, devant Dieu, de son indignité devant Dieu, alors l'âme reste calme, stable. Devant les épreuves, elle n'est pas affolée, devant les échecs, elle n'est pas effondrée. Il est quasiment normal qu'un misérable chute. Devant les réussites, elle n'est pas exaucée au-delà de la mesure, elle ne s'enorgueillit pas, car elle sait que la réussite vient de Dieu et elle sait de quoi elle est capable quand elle est toute seule. Voilà donc la mortification qui est un des grands moyens de connaître la joie spirituelle. Sans mortification, il n'y a pas de joie spirituelle véritable possible, de joie spirituelle durable. Un autre moyen, plus puissant encore, eh bien, c'est, je crois, l'esprit de foi. C'est si l'on a un grand esprit de foi que l'on vivra dans la joie. La joie ici-bas par la foi, pour la joie là-haut dans la vision. La joie ici-bas par la foi. Car c'est dans la foi, c'est par la foi que nous savons que Dieu habite en nous, par la grâce sanctifiante, qu'il a fait de nous son temple, que nous sommes unis à lui d'une façon intime. Nous pouvons le connaître en nous, l'aimer en nous. La joie, c'est le sentiment intime de la possession d'un bien. Nous possédons Dieu en nous, nous le savons par la foi. Nous sommes joyeux par la foi. Dans la foi, nous savons aussi que tout ce qui arrive coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà une parole capitale de saint Paul. Une parole qu'il ne faudrait jamais oublier dans les épreuves de notre vie. Tout ce qui arrive coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Par conséquent, tout ce qui arrive coopère au bien de notre âme, dont tout ce qui arrive favorise notre joie. Les joies, évidemment, les consolations, évidemment, les réussites, évidemment, les peines aussi, le péché lui-même. Après le péché, on se convertit. Après le péché, on est moins présomptueux. Après le péché, on s'appuie un peu plus sur Dieu, on compte plus sur la grâce. Après le péché, on a plus de joie. Même donc nos péchés coopèrent à notre bien, pourvu que nous aimions Dieu, pourvu que nous nous convertissions, évidemment. Tous les saints ont connu la joie, tous les saints ont connu la joie par la mortification. Saint Paul tressaillait de joie dans ses tribulations, les apôtres avec Pierre en tête, sortis du Sanhédrin où on les avait battus de verge, heureux, joyeux d'avoir souffert quelque chose pour le Christ. Ils faisaient leur devoir d'apôtres, ils pâtissaient en accomplissant ce devoir d'apôtres, ils étaient joyeux de pâtir en accomplissant ce devoir d'apôtres. Et bien voilà un autre moyen d'avoir la joie, c'est d'accomplir son devoir. Le fait de faire tous les jours son devoir est une source de grande paix, une source de grande joie. Le fait d'être présent à ce que l'on fait, age quod agis, vous connaissez par cœur ce principe de la vie spirituelle, age quod agis. Faisons bien ce que nous avons à faire, faisons-le bien, alors, au soir de la journée, dans l'examen de conscience, nous aurons quelques raisons d'être joyeux parce que nous aurons fait notre devoir. Nous connaîtrons la paix du devoir accompli, la joie du devoir accompli. Jésus-Christ disait aux apôtres, à ses apôtres, qu'il voulait que leur joie soit parfaite, que sa joie soit en eux. Eh bien, qui ici-bas participe le plus près à Jésus-Christ Sauveur, Jésus-Christ Prêtre, Jésus-Christ Prophète et Roi? Qui? Le prêtre. Par conséquent, plus que n'importe qui, le prêtre doit connaître cette joie spirituelle. Plus que n'importe qui, il doit s'unir à Dieu dans l'étude pour connaître Dieu, dans la prière pour contempler ce qu'il étudie, dans l'amour pour être uni profondément, intimement à Dieu. Et lorsque le prêtre aura cette joie lui-même, alors il pourra la transmettre aux autres. Plus que n'importe qui, le prêtre doit connaître cette joie par la mortification, par la foi, par le devoir accompli en particulier. Alors, chers séminaristes, vous avez compris, vous aussi, qui êtes ici pour vous préparer à être prêtre un jour, si Dieu veut. Vous serez des transmetteurs de joie, de paix, de contentement intime de l'union à Dieu. Pour cela, il faut avoir la joie, la paix, le contentement intime de l'union à Dieu par la mortification, l'esprit de foi, le devoir accompli. Pour finir, tournons-nous vers la Vierge Marie. Causa nostrae letitiae, la cause de notre joie, comme on dit dans ses litanies. Notre-Dame est la cause de notre joie. Pourquoi ? Parce qu'elle a mis au monde la source de notre joie, le Sauveur. Le Sauveur qui est venu rendre la grâce au monde. Or, c'est par la grâce sanctifiante que nous connaissons la vraie joie. Notre-Dame qui est la médiatrice de toutes les grâces. Or, c'est par la grâce, par le moyen des grâces de Dieu, que la joie croît en nous. Notre-Dame, qui est la consolatrice des affligés, c'est encore ce que nous disons dans ces litanies. Notre-Dame qui console ceux qui sont tristes. Vous êtes tristes maintenant, mais vous serez heureux un jour et pour toujours. Et cette joie de toujours commence dès ici-bas. Notre-Dame nous conduit par la joie imparfaite d'ici-bas, à la joie parfaite de là-haut. Alors, demandons à Notre-Dame cette joie de la paix, de l'union à Dieu, afin de connaître la joie parfaite de l'union à Dieu pour toujours, car notre âme est faite pour Dieu et n'aura de repos, n'aura de tranquillité, de joie parfaite, que lorsqu'elle reposera vraiment en Dieu, au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.